Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 5 janvier 2026. C'est notre premier rendez-vous de l'année et donc c'est la traditionnelle cérémonie des vœux. Traditionnelle, je ne sais pas si c'est pour le bon terme. Déjà 5 jours dans cette nouvelle année et le monde est complètement bouleversé et avec une brutalité sans précédent. Donc je crois qu'il faut effectivement souhaiter malgré tout la bonne année et surtout la santé nécessaire pour pouvoir mener tous les combats qui sont devant nous. Ils sont nombreux, ils sont importants, ils sont décisifs. Alors, pour commencer, je voudrais signaler la sortie du nouveau numéro de Front Laïque, la revue trimestrielle du groupe Fred Zeller, avec toute une série d'articles, notamment les reportages sur des rassemblements pacifistes, et puis le reportage également sur les rassemblements en relation avec le 120e anniversaire de la loi de 1905. Donc cette revue, vous pouvez vous la procurer auprès des militants du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, en version papier ou en version électronique. Et pour cela, vous pouvez vous abonner directement sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, en version électronique. C'est pour la somme symbolique de 2 euros. Voilà. Alors, on va en penser maintenant au choix de ce jour qui vont concerner la Palestine. Mais une autre annonce extrêmement importante en relation avec ce que j'évoquais à l'instant. Il y aura ce soir un rassemblement qui est organisé par toute une série d'organisations locales pour, bien sûr, défendre en soutien au peuple du Venezuela. Bien sûr, il faut défendre également le peuple palestinien, et je vais y venir tout à l'heure. Mais par rapport au Venezuela, il y a un rassemblement qui se tient ce soir à 18h devant le palais de justice de Périgueux. Donc à 18h ce soir devant le palais de justice de Périgueux. Et le premier vœu qu'on peut former pour cette nouvelle année, c'est d'être particulièrement nombreux à ce rassemblement ce soir pour donc défendre le peuple du Venezuela contre l'agression commise par Trump contre ce pays. Alors j'en viens maintenant au premier texte que je voulais vous proposer, c'est sur la Palestine, sur Gaza, suite à un colloque international sur Gaza qui s'est tenu au Collège de France entre politique et poétique. C'est publié sur le Club Mediapart par Didier Fassin, qui est anthropologue et médecin, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. Question morale, c'est vraiment là une question du jour. Depuis 2 ans, la censure des autorités académiques et gouvernementales, sous la pression de groupes et de réseaux, a conduit à des annulations d'événements scientifiques. C'est dire la signification du colloque public qui s'est tenu au Collège de France le 17 décembre 2025, intitulé « Politics and Poetics on the Ruins of Gaza ». Parler de ruines n'est certes pas sans poser problème, mais dire les ruines, c'est faire exister une mémoire qu'Israël cherche à effacer. Le monde universitaire français a, depuis 2 ans, été peu ouvert à l'analyse des faits qui ont suivi l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023 en Israël et ont été qualifiés de génocide des Palestiniens de Gaza par une majorité d'experts internationaux des crimes de masse, plusieurs grandes organisations de droits humains et une commission d'enquête indépendante des Nations Unies. La censure des autorités, tant académiques que gouvernementales, sous la pression de groupes et de réseaux communautaires ou partisans, a conduit à des interdictions et des annulations d'événements scientifiques. L'autocensure s'est développée à la suite de dénonciations, de sanctions administratives, d'auditions par la police, de convocations devant les tribunaux sur la base d'accusations d'apologie du terrorisme et d'incitation à la haine raciale. Des rencontres ont certes eu lieu, mais dans le cadre limité de séminaires et d'ateliers réunissant chercheuses et chercheurs, étudiantes et étudiants. C'est dire la signification du colloque public qui s'est tenu au Collège de France le 17 décembre 2025 sous l'intitulé « Politics and Poetics on the Ruins of Gaza » en présence de plus de 400 auditrices et auditeurs de divers horizons. Il s'agissait de présenter les travaux scientifiques éclairant l'histoire longue aussi bien que récente de la Palestine sous occupation et révélant par le pouvoir de la poésie et du roman la vie quotidienne des Palestiniennes et des Palestiniens confrontés à la violence extrême. Cette réflexion collective, menée par des anthropologues, juristes, politistes et spécialistes de littérature de trois continents, revêtait une importance particulière dans un temps où l'annonce, quelques mois plus tôt, d'un cessez-le-feu non respecté par l'armée israélienne et d'un processus de paix excluant toute participation palestinienne avait fait quasiment disparaître les événements de la région de la plupart des médias occidentaux. L'écrasement de Gaza et le massacre de ses habitants, la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, les attaques et l'occupation au Liban et en Syrie, les menaces contre l'Iran et le Yémen faisaient l'objet d'une normalisation. Le temps est proche où ce qui sut demeurer inexplicable pourra seul nous requérir, écrivait René Char. Ce moment est en effet venu de tenter de comprendre ce qui semble inintelligible, à savoir le déchaînement de la brutalité de la société israélienne contre le peuple palestinien et l'abdication par la plupart des pays occidentaux de leurs valeurs éthiques et de leurs obligations légales. Pour ce faire, les sciences sociales peuvent aider à appréhender les événements des deux années écoulées à la lumière de l'histoire de la région, au cours du dernier siècle et du rôle qu'y ont joué les grandes puissances, tandis que la littérature peut seule proposer un langage pour rendre compte de l'expérience et de la résistance de la population palestinienne dans l'éternel recommencement de sa destruction. Parler de ruines, comme il est fait dans le titre du colloque, n'est certes pas sans poser problème. Le mot évoque en effet, avec un sentiment nostalgique mêlé d'émotions esthétiques, l'érosion du temps et parfois la dévastation de guerres anciennes. Et l'on sait qu'il a été célébré par les romantiques et connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Or, à Gaza, il faudrait plutôt parler d'infrastructures et de bâtiments éviscérés, de fragments humains dispersés dans les gravats, de décombres sous lesquels sont enfouis des cadavres à jamais disparus, de vestiges de ce qui fut une mosquée, une église, une école ou un musée. Mais peut-être que dire les ruines, c'est faire exister une mémoire que les Israéliens cherchent à effacer. Car les mots sont importants. Ils peuvent servir à dévoiler ou au contraire à occulter la réalité des faits. Ainsi, la presque totalité des médias occidentaux ont systématiquement nommé l'opération militaire à Gaza sous la désignation de « guerre Israël-Hamas », reprenant ainsi la communication officielle mise au point par les autorités israéliennes. Pourtant, le langage utilisé par les responsables politiques et militaires du pays ne laissait guère de doute sur leurs intentions tout autres, puisque le président accusait, citation, « la nation entière d'être responsable de l'attaque du 7 octobre et devait à ce titre être puni, que le vice-président de la Chambre des députés disait qu'il fallait effacer la bande de Gaza de la face de la terre, que l'espace public s'emplissait de déclarations selon lesquelles il n'y a pas d'innocents et que le Premier ministre lui-même confirmait en invoquant devant les soldats l'ennemi biblique dont il fallait exterminer les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons. » C'est une citation du Premier ministre. Et de joindre le geste à la parole avec un bombardement représentant 6 fois Hiroshima, un anéantissement des structures de santé, un blocage de l'aide humanitaire et l'annihilation de tout ce qui pouvait rendre viable la vie des Palestiniennes et des Palestiniens. Pourquoi alors affirmer qu'il s'agissait d'une guerre Israël-Hamas? Il y a au moins 3 raisons à cette trahison du langage. Premièrement, elle légitime l'opération militaire en la présentant comme la simple élimination d'une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, mais pas par les Nations unies. Deuxièmement, elle écarte toute accusation de crime au regard du droit international, puisqu'elle prétend n'être qu'une action destinée à débarrasser la région d'un ennemi public, quitte à devoir s'accommoder de la mort de civils considérés comme un dommage collatéral inévitable. Troisièmement, enfin, elle fournit aux pays occidentaux désireux de soutenir les représailles israéliennes une justification au nom du droit à la légitime défense. Ces 3 raisons ont pour arrière-plan la volonté d'effacer un siècle de dépossession des Palestiniens de leurs terres et de leurs droits en faisant commencer l'histoire le jour de l'incursion du Hamas en Israël. L'interprétation des faits est, on le comprend, décisive. Elle est déterminée non par la recherche de la vérité, mais par les rapports de force, tant au niveau international qu'au plan national. Le colloque du Collège de France a donc été conçu pour inverser cette logique et tenter de redonner, à travers le travail scientifique et littéraire, un sens aux événements. Au cours de la première séance, consacrée à la politique, il s'est agi d'aller au-delà de la rhétorique officielle, souvent reprise sans discussion par les médias, pour saisir les enjeux des mots utilisés et des arguments avancés et faire émerger une autre vérité. Nadira Salkoub-Kevorkian, jusqu'à récemment professeur à l'école de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem et désormais professeur invité à l'Université de Princeton, propose une réflexion sur la signification pour l'armée israélienne et l'expérience pour les familles palestiniennes du démembrement des personnes par les explosions, de la dispersion des restes humains dans les décombres des habitations et des tentes détruites et de la désacralisation des cadavres écrasés par les bulldozers, enterrés dans des fosses communes, mis à découvert dans des cimetières éventrés et même enlevés à leurs proches pour empêcher les rites funéraires. Elle s'interroge notamment sur cet excès meurtrier en tant que pratique coloniale d'assujettissement et de déshumanisation. Niamh Gordon, qui fut professeur de sciences politiques à l'Université du Negev et qui est aujourd'hui professeur de droit à l'Université Queen Mary de Londres, s'attache à l'analyse des usages de la catégorie juridique internationale des boucliers humains dans le cadre de la justification des violences perpétrées contre les populations de Gaza au cours des deux dernières décennies, usage dont il a distingué trois modalités. Il y a d'abord le recours à des prisonniers palestiniens habillés d'uniformes militaires israéliens pour pénétrer les premiers dans les maisons et les tunnels de Gaza afin de servir d'appât pour d'éventuels ennemis. Ensuite, la désignation de presque toutes les structures civiles comme dissimulant des armes ou des militaires, de manière à en faire des cibles pour les frappes. Enfin, l'utilisation de l'argument du bouclier humain pour légitimer les massacres et contester l'existence d'un génocide avec des conséquences considérables pour le droit international. Daryl Lee, juriste et avocat, professeur d'anthropologie à l'Université de Chicago, examine le travail de mémoire des Juifs israéliens, consistant d'une part à construire un lieu Yad Vashem pour conserver le souvenir de la Shoah, et comme d'autre part, quelques kilomètres plus loin, à effacer toute trace du massacre de Deir Yassin commis pendant la Nakba. Il se demande alors comment l'universalisme revendiqué de la définition du génocide, établi à la suite de celui des Juifs d'Europe, se trouve aujourd'hui ébranlé par le déni que lui oppose le pays accusé de commettre, avec le soutien des puissances occidentales, réduisant ce qui fut le mot d'ordre d'espoir, Never Again, à une simple loi du plus fort. Nadia Abou El-Hadj, professeure d'anthropologie au Barnard College et co-directrice du Centre d'études palestiniennes de l'Université de Columbia, analyse la manière dont le traumatisme, à la fois comme manifestation psychique et comme entité symbolique, a permis, d'une part, de justifier la violence de la réaction des Israéliens aux attaques du 7 octobre et, d'autre part, de rendre compte de la souffrance des soldats prenant conscience à leur retour du front des crimes terribles qu'ils avaient commis ou auxquels ils avaient assisté. Elle montre comment la mémorialisation de la Shoah par l'État israélien s'est transformée au fil du temps, devenant de plus en plus prégnante dans un imaginaire victimaire que les événements récents ont réactualisé sous la forme d'une menace existentielle, alors même qu'Israël dispose d'une écrasante domination militaire régionale et occupe presque toute la Palestine. Lors de la seconde séance, construite autour de la forme littéraire, c'est une autre manière de représenter le peuple palestinien, ses infortunes et sa persévérance, son attachement à sa terre et son désir de vivre, qui a été exposé en quelque sorte en contrepoint à la cruauté des massacres et à l'indifférence du monde. Houda Fakhedrine, professeur de littérature arabe à l'Université de Pennsylvanie, souligne la façon dont la poésie, quand bien même elle s'exprime avec le singulier de l'expérience personnelle, fait entendre au pluriel une expérience universelle. S'inquiétant pourtant du caractère presque incommunicable de l'affliction des Palestiniens, tant le monde est prêt à en ignorer ou à en nier la réalité, elle évoque notamment un poème qu'elle a traduit de Iba Abou Nada, assassiné à 32 ans par l'armée israélienne au début de l'opération militaire à Gaza, poème dans lequel la jeune autrice dit la souffrance de son peuple, abandonné de tous, condamné à faire face seul à la violence de l'ennemi. Isabelle Amad, écrivaine dont plusieurs des romans ont reçu des prix, se livre pour sa part à un voyage généalogique au cœur de la poésie arabe, plongeant jusque dans la période pré-islamique et souligne la continuité contemporaine des thèmes de la ruine, de la trace et du deuil, de guerre en massacre, de colonisation en occupation. Mais elle décrit aussi comment se déploient des formes de refus ou de subversion de ces thèmes, soit à travers le réalisme des horreurs de la dévastation des lieux d'existence et de la décomposition des cadavres sous les éboulis, soit à travers l'appel à la vie malgré tout, soit même à travers l'impossibilité d'écrire, telle que la formule Mourid Barghouti en parlant de ruines de l'imagination du poète. Diana Allan, professeure d'anthropologie à l'université McGill, cinéaste et cofondatrice de l'archive de la Nakba, évoque ses rencontres avec des poètes et ses lectures de leurs poèmes, voyant dans les uns et dans les autres une manière de résister à la déshumanisation qui les accable. Elle dit « La bouleversante réponse d'Ala Naïb al-Qatawri à l'œuvre meurtrière de l'armée israélienne qui a privé de vie ses 4 jeunes enfants lors d'un bombardement, réponse dans laquelle elle dit en même temps sa foi dans la puissance de la religion et de la poésie, reliant l'une et l'autre dans son expérience de la souffrance. » Mahmoud Al-Sher, poète, éditeur et créateur d'un magazine et d'un espace culturel à Gaza, parle, lui, de la mort du langage dont il a souffert au fil des mois, en lutte contre le silence et l'effacement devant l'horreur qui l'entourait, s'efforçant malgré tout de préserver son travail de création. C'est toutefois par visioconférence qu'il s'est exprimé, alors même qu'il était lauréat depuis 6 mois du programme PAUSE, d'accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil, le gouvernement français ayant interrompu toutes les évacuations au mois d'août dernier. Il n'a pu sortir de l'enclave que grâce à une opération humanitaire espagnole, mais faute de visa n'a pu rejoindre le Collège de France où il bénéficie d'une résidence d'écriture. Les seuls, parmi tous les lauréats du programme PAUSE dans le monde, à ne pas avoir reçu d'autorisation d'entrer sur le territoire français, ceux de Gaza sont ainsi à la fois les plus menacés et les plus discriminés. Toutes ces interventions scientifiques et littéraires, pleines de profondeur et d'humanité, si différentes des discours convenus tant de fois répétés, il est possible de les écouter dans la version originale, en anglais prononcée lors du colloque et dans la traduction française des interprètes sur le site du Collège de France et sur la chaîne YouTube. Il est cependant douloureux de penser que l'intérêt légitimement manifesté depuis 2 ans pour la question de Palestine et pour la littérature palestinienne, l'une et l'autre si longtemps délaissées, trouve tragiquement sa source dans les champs de ruines et de morts de Gaza. Alors, je vous propose maintenant d'écouter quelques mesures d'une chanson palestinienne qui est donc une des plus connues. Le titre, c'est « Ya Zarif al-Toul », qui s'est répandue dans toute la Palestine historique et dans les communautés palestiniennes de la diaspora. C'est une chanson qui est antérieure à la Nakba et je vous propose donc d'en écouter quelques mesures.
Thank you.
Nia Zarif Altul, écoute-moi te dire, tu t'en vas vers des terres étrangères, mais ton pays est meilleur pour toi. Je crains que tu ne t'en ailles, Nia Zarif, et que tu ne trouves un autre foyer, que tu rencontres d'autres personnes et que tu m'oublies. Voilà, c'était des paroles extraites de la chanson que nous venons d'écouter. Je vous donne maintenant donc lecture d'un texte, ou du moins du début d'un texte, si je n'ai pas le temps de le lire en entier, qui a été publié dans le Club Mediapart par Naj El Kadib, professeur et chercheur en sociologie. Quel État palestinien ? Le droit à l'autodétermination est indivisible. Hassan Abu Lidbeh, ancien ministre de l'autorité palestinienne, a évoqué le 19 décembre 2025 que dans le contexte de la colonisation rampante, le pourcentage de terres sur lesquelles un État palestinien serait viable se réduisait considérablement. Il a suggéré qu'au lieu des 23% de la Palestine mandataire correspondant à la Cisjordanie et à Gaza, les Palestiniens pourraient en pratique n'obtenir qu'entre 8% dans un scénario optimiste et 3% dans un scénario réaliste, compte tenu de la colonisation israélienne du territoire occupé en 1967. Selon les frontières de 1967, la superficie de, entre guillemets, l'État de Palestine est de 6225 km². La vérité sanglante et meurtrière que les dirigeants palestiniens nient, c'est que l'entité occupante s'est emparée de 182 km² de Gaza à l'est de la ligne jaune, qu'Israël a déclarée comme sa nouvelle frontière, de 349 km², la superficie de Jérusalem, de 2188 km² pour diverses colonies, de 176 km² pour des réserves naturelles protégées et de 1328 km² le reste de la zone C après l'attribution de la superficie des colonies prévue à l'annexion. Cela signifie que notre futur État ne pourrait n'être établi que sur 32% du territoire de l'État de Palestine, proclamé suite aux accords d'Oslo. Si nous acceptons les aspirations de l'extrême droite terroriste dirigée par Smotrich, selon lesquelles l'annexion pourrait inclure 1248 km² de la zone B, alors l'État de Palestine ne serait rien de plus qu'une monstruosité géographique représentant 12,2% du territoire. Autrement dit, la superficie de notre futur État pourrait varier entre 8% au mieux et 3% au pire de la superficie de la Palestine historique. En d'autres termes, et sans détour, cela ne vaut même pas la peine. Nous pouvons alors conclure qu'un refus de cet État s'impose comme un devoir national pour dire non à l'État comme substitut au droit au retour et au droit à l'autodétermination de l'ensemble du peuple palestinien. Les reconnaissances internationales successives de ce que l'on appelle l'État palestinien sont présentées comme un accomplissement politique historique, alors qu'elles ne constituent en réalité qu'un recyclage, une vieille illusion, promue au détriment de l'essence même de la cause palestinienne. Ces reconnaissances, malgré leur langage diplomatique soigné, éludent délibérément les questions fondamentales. Qui est le peuple palestinien ? Quel est le contenu réel de son droit à l'autodétermination ? Et quelle place le droit au retour occupe-t-il dans cet État supposé ? Il est frappant de constater que ces reconnaissances ne font aucune référence aux résolutions 181 et 194 de l'ONU, comme si elles avaient été effacées du registre de la légalité internationale. La résolution 194, qui constitue le fondement juridique du droit au retour, est marginalisée au profit d'une seule résolution, la 242, elle-même réduite à une simple clause de négociation. Ainsi, le droit international est vidé de sa force contraignante et transformé en un instrument politique sélectif. Même lorsque certaines initiatives internationales évoquent la nécessité d'un retrait israélien des territoires occupés en 1967, ce discours s'inscrit toujours dans un cadre de négociation qui établit une fausse équivalence entre une puissance coloniale occupante et un peuple sous occupation. L'occupation cesse alors d'être un crime devant prendre fin immédiatement pour devenir un conflit géré à travers des tables de négociation ouvertes indéfiniment. Depuis les accords d'Oslo, ce processus de négociation a été consacré comme l'unique option offerte aux Palestiniens. L'Organisation de libération de la Palestine a joué un rôle central dans la consolidation de ce choix, non pas comme une option politique susceptible de critique et de révision, mais comme un destin historique sans alternative. Il en a résulté un démantèlement interne du projet national, un abandon progressif du droit au retour et l'acceptation d'une autorité d'autonomie limitée opérant sous le contrôle sécuritaire et militaire de l'occupation. Plus de 20 années de négociations n'ont produit ni État, ni souveraineté, ni même un gel de la colonisation. Au contraire, Ces négociations ont servi de couverture politique et juridique à une accélération sans précédent du colonialisme de peuplement et à une confiscation systématique de ce qui restait des terres palestiniennes, y compris celles sur lesquelles l'État, entre guillemets, promis, était censé voir le jour. Le projet étatique s'est ainsi transformé en un ensemble de bantoustans isolés, dépourvus de continuité territoriale et de perspectives historiques. Dans ce contexte, l'observation formulée par la juriste française Raphaëlle Maison revêt une importance particulière. Le retrait israélien des territoires occupés n'est, selon le droit international, nullement conditionné à un processus de négociation. Le droit international n'accorde pas à la puissance occupante le droit de négocier la fin de son occupation. Il lui impose un retrait immédiat et inconditionnel. Le processus de négociation engagé après Oslo est donc non seulement contraire aux intérêts du peuple palestinien, mais aussi à l'esprit même du droit international. Cela signifie que les Palestiniens n'ont pas seulement été vaincus par les rapports de force, mais qu'ils ont aussi été politiquement induits en erreur. La négociation n'a pas été un moyen d'obtenir le retrait, mais un outil de gestion et de prolongation de l'occupation. Pourtant, elle a été présentée comme une preuve de sagesse politique, certains négociateurs allant même jusqu'à considérer la négociation comme une valeur en soi, ignorant le fait que, du point de vue israélien, ce processus ne visait pas à résoudre le conflit, mais à le gérer au moindre coût. Dès lors, les reconnaissances internationales de l'État palestinien ne peuvent être considérées comme une victoire politique. Elles constituent dans leur essence un contournement du cœur de la cause palestinienne et une tentative de substitution des droits historiques et juridiques d'un peuple entier par une entité souveraine incomplète sur une partie du territoire. Un État sans retour, sans souveraineté et sans unité du peuple et de la terre n'est pas un État, mais une forme moderne de pérennisation de la défaite. Le droit à l'autodétermination est indivisible. Il ne peut être limité aux habitants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en excluant des millions de réfugiés dans les exils, ni les Palestiniens à l'intérieur de la ligne verte qui vivent comme des citoyens de seconde zone dans un État bâti sur les ruines de leur peuple. Il ne peut pas non plus être réduit à un drapeau, un hymne et des frontières provisoires alors que la structure du colonialisme de peuplement demeure intacte du fleuve à la mer. Toute solution qui ignore le peuple palestinien et l'unité de ses droits et qui ne repose pas sur la justice historique de l'égalité politique ne sera pas une solution, mais une reproduction du conflit sous une forme diplomatique embellie. Ce qui est requis n'est pas un État à n'importe quel prix, mais l'application effective du droit à l'autodétermination de l'ensemble du peuple palestinien. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette analyse qui me semble extrêmement intéressante et que vous retrouverez également donc sur le site du groupe Fretzeller, lpdordogne.fr. Nous en arrivons maintenant à la conclusion de cette chronique, et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord.
Merci. En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fretzeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi, de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fretzeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fretzeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive.